écoutons chapitre 7, les versets 11 à 17. Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et il lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Alors le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et y rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Ce récit est simple. Alors, les pasteurs ont l'habitude de compliquer les choses, mais j'espère ne pas dire les choses compliquées, parce que ce récit est tellement simple, et c'est la vérité, que Jésus ressuscite les morts. Mais nous pouvons voir, avec la comparaison du récit que nous avons écouté dans le livre des rois, que Élie aussi a ressuscité un jeune homme mort. Et nous voyons là les différences. Nous voyons là, dans le récit d'Élie notamment, que c'est la maman qui est venue vers le prophète avec son fils dans les bras et lui a demandé « Est-ce que tu es venu nous rappeler ma faute ?» Je ne sais pas de quelle faute il s'agit, mais dès qu'il y a un malheur, on cherche pourquoi Dieu nous envoie un malheur. Alors Élie a prié. Mais ici, dans l'Évangile, cette femme n'a rien demandé. Et Jésus, c'est lui qui est allé vers elle, sans qu'elle lui ait demandé. Elle ne savait même pas qu'elle pouvait demander ça à Jésus. C'est comme ça que se passe le salut pour nous aussi. Jésus vient vers nous de lui-même. C'est lui qui s'approche de l'être humain. Avant même que celui-ci lui demande quelque chose. Il y a des exemples, des témoignages comme ça. Chaque témoignage, chaque personne rencontre Jésus d'une façon qui est propre à chaque personne. Jésus ne s'y prend pas de la même manière. Certaines ont beaucoup cherché. Moi, j'ai longtemps cherché. Mais d'autres n'ont rien cherché et puis le Seigneur s'est révélé à ces personnes. J'en connais. Ils n'avaient besoin de rien. Jésus est venu. Il leur a parlé. Comme il a parlé directement à cette veuve qui venait de perdre un fils. Son seul fils d'ailleurs. Un fils unique. Quel deuil terrible. Déjà le deuil du mari, maintenant encore le deuil de son enfant unique. Jésus a été pris de pitié, de compassion pour cette femme. Et déjà ça, nous pouvons le garder toute notre vie. C'est une chose très simple. Jésus a été pris de compassion. Voilà Dieu, pris de compassion. Alors ça nous étonne. Ça nous semble en contradiction avec le monde où nous vivons, la réalité avec laquelle nous avons affaire, qu'il y a des souffrances et on dirait Dieu ne répond pas. Et voilà la vérité. Dieu a été pris de compassion. Là, c'est la première fois dans l'évangile de Luc qu'on emploie le mot « le Seigneur ». Ça, c'est la façon inhabituelle jusqu'à présent, jusqu'au chapitre 7. On n'employait pas dans l'évangile de Luc cette expression « le Seigneur » pour parler de Jésus. On disait « Jésus ». Mais là, on dit « le Seigneur ». Il est Dieu. C'est comme ça que les Juifs appellent Dieu « le Seigneur ». Il est là. Et il va vers cette femme. Et puis, il lui parle. Il lui dit « ne pleure plus ». Vous comprenez bien que là, il y a une différence avec le prophète Élie. Élie n'a pas dit à cette veuve de Sarepta « ne pleure plus ». Voyez la différence. C'est là, Jésus ne parle pas comme un homme. Qui peut dire à quelqu'un « ne pleure plus » alors qu'il vient de perdre son fils, qu'il est en train d'enterrer son fils ? Qui peut dire ça ? Le Seigneur, mais pas un homme. Là, nous voyons, dans cette simple façon dont Jésus aborde cette femme, qu'il est le Seigneur Dieu, tout en étant un homme, évidemment. C'est le grand mystère de l'Évangile. Jésus, le Fils de Dieu. Paul dit, dans l'Épître aux Galates, il donne son témoignage, lui aussi, là, il dit, quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. C'est une révélation pour Paul que cet homme Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pour nous, ça fait 2000 ans qu'on entend ça, on voit ça écrit, prêché dans les églises. Mais c'est une révélation. J'ai parlé mercredi soir à Belleville sur Belle-Rive sur Allier avec une femme. Elle a dit que c'était pour elle une révélation. Elle était catholique, baptisée, communiante, tout ça. Mais Jésus, Fils de Dieu, elle l'a reçu par révélation. Le jour où cette révélation lui a été donnée, sa vie a été plus la même. Et exactement, je lui dis, mais comment ça s'est passé ? Elle dit, j'ai cherché beaucoup, j'ai interrogé beaucoup de prêtres. On a voulu m'exorciser et tout, rien. Parce qu'il y avait beaucoup d'occultisme dans le monde où elle a fréquenté toutes ces choses, tout en étant catholique, hein, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai dit, comment ça s'est passé ? Elle m'a dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Et il m'a dit, ne pleure plus. Maintenant, je vais te conduire. Ne pleure plus. C'est exactement ce que Jésus dit à cette veuve-là. Vous voyez que c'est encore d'actualité, que Jésus peut s'approcher d'un être humain et lui dire, ne pleure plus. Mais pourquoi il peut dire ça ? Parce qu'il a la puissance de la résurrection. Il est lui-même la résurrection. Il dit ça avant de ressusciter Lazare. On oublie souvent qu'il y a tout un dialogue avant la résurrection de Lazare avec la sœur du mort, avec Marthe. Et là, il dit, oui, tu crois à la résurrection. Beaucoup croient ça aussi de nos jours. Oui, tout ça, c'est des dogmes. Bon, on croit à la résurrection au dernier jour. Mais tout d'un coup, Jésus approfondit le sujet avec Marthe. Il dit, mais je suis la résurrection. Donc, il ressuscite ce jeune homme. Vous comprenez bien que le cercueil n'était pas fermé. Là-bas, encore aujourd'hui, on enterre directement dans un drap. Jésus a été enterré dans un drap qu'on appelle le suaire. Jésus s'est approché, a touché aussi le cercueil. Les porteurs se sont arrêtés. Le mort s'est assis quand Jésus lui a dit « Réveille-toi, je te l'ordonne ». Ça se passera comme ça aussi, quand il y aura la résurrection au dernier jour. Ce sera tout simplement la voix de Jésus. Tout simplement. La voix de Jésus qui va dire aux morts « Sortez, réveillez-vous ». Voilà donc deux foules qui se rencontrent, une qui accompagnait Jésus, une qui accompagnait tout le village, qui accompagnait une veuve avec son fils dans un cercueil. Et ces deux groupes disent après, ensemble, « Dieu a visité son peuple ». Dieu a visité son peuple. Dieu visite encore de nos jours des pays où il y a beaucoup de résurrections de morts. Parce que dans ces pays, il n'y a pas de médecin d'abord. Donc on meurt beaucoup plus facilement. On n'a pas de médecin. Maintenant, le Mozambique va devenir un pays riche. On a trouvé des ressources gazières, je crois. Enfin, il va devenir un des pays riches. Mais c'est un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Et là-bas, il y a eu beaucoup de résurrections de morts. Je connais des pasteurs qui ont mangé à table avec des gens qui avaient été ressuscités de morts. Qui étaient morts et qui avaient été ressuscités. Donc on voit ces miracles encore se produire aujourd'hui. Mais bien sûr, il y en a qui ne croient pas. Mais moi, j'ai vu des gens qui ont vu les ressuscités. Donc, c'est pas des gens fous. Hein. Donc, je sais que ça se produit encore. Et si on avait la foi, si on a la foi, on peut ressusciter les morts. Jésus dit, allez, ressuscitez les morts. Et comme signe à Jean-Baptiste, qui est à ce moment-là emprisonné, Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Allez lui dire, les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça c'est dans le même chapitre, au chapitre 7 de Luc, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et il ajoute cette phrase un peu énigmatique, heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Comment? Il fait que du bien, il fait guérir beaucoup de malades ou d'handicapés, et puis il ressuscite des morts, et on pourrait tomber à cause de ça. Ah oui? Parce que l'évangile ne s'arrête pas à ces miracles, l'évangile nous parle aussi de la croix. Et on peut tomber à cause de la croix de Jésus. Parce que devant la croix, il y en a plusieurs qui lui ont dit, tout le monde le disait presque, tout le monde, mais si tu es le Fils de Dieu, alors descends! Descends de la croix! Et nous croirons! Ils sont tombés, ceux qui disent ça. Parce qu'ils ordonnent. Ils ordonnent à Dieu ce que Dieu doit faire pour qu'eux puissent croire. Vous rendez compte? Vous rendez compte de ce qui se passe? Mais moi, ça se passe tout le temps comme ça dans ma tête. J'ordonne à Dieu ce qu'il doit faire pour que je croie en lui. Mais quelle idiotie! On est vraiment tombé sur la tête. Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire pour qu'on croie? Il n'a pas besoin de ça. Lui, il fait les choses, il agit, il parle en premier. C'est lui qui nous a créés. Et l'évangile, c'est donc aussi la croix. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Et la croix, c'est Dieu, lui, qui cette fois-ci perd son Fils unique. Cette fois-ci, c'est Dieu qui perd son Fils unique, qui le laisse, qui doit le laisser. Parce que Jésus priera sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'ailleurs, il y en a qui croient qu'il appelle Élie à ce moment-là, parce que « mon Dieu », ça se dit « Élie » en araméen. « Élie ». Alors, il dit « ah ». On va voir si Élie va venir, parce que Élie n'étant pas mort, voyez, Jésus aurait pu quitter ce monde sans mourir, comme Élie. Or, il est mort. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quelle phrase incompréhensible. Mais c'est la base, c'est là la racine de là où vient la foi en Fils de Dieu. Parce que la suite, les apôtres vont donner, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que dans cette croix se trouve la résurrection. Pas seulement pour Jésus, parce qu'il est ressuscité le troisième jour, mais pour nous, la résurrection est possible, parce qu'il y a eu la croix de Jésus, parce que Dieu nous a mis dans sa mort. Et pas seulement, même il y a dans l'Épître aux Romains, Paul l'apôtre dit, il nous a aussi ensevelis, nous étions aussi dans la tombe, nous étions enterrés déjà, et Dieu nous a ressuscités quand Jésus est ressuscité. C'est croire cela qui donne la vie éternelle. Et cette foi-là, elle est le miracle de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». Nous avons la puissance de Dieu ici dans ce miracle, mais cette puissance de Dieu, elle est dans la croix pour nous aujourd'hui. Elle est dans la résurrection de Jésus. Car si nous célébrons la communion au corps et au sang du Christ, vous comprenez bien que dans cette sainte scène, nous ne célébrons pas la communion à un cadavre. Vous comprenez bien ça. Nous célébrons la communion à la vie du ressuscité. Il est le vivant et nous prenons dans le pain et le vin communion. Nous avons communion part à la vie du ressuscité. Maintenant, je voudrais ajouter une chose. Vous allez être choqués, mais tant pis, parce que les protestants ne sont plus du tout enseignés là-dessus. Les catholiques sont enseignés, mais d'une certaine façon. Il n'y a pas que Dieu qui a perdu son Fils à la croix. Il y a aussi Marie. Elle a perdu son Fils. Et dans l'évangile de Jean, il y a toute une orientation. D'ailleurs, le mot de Marie n'est pas employé. On dit la mère de Jésus était là, à la croix. Jésus l'a regardée, l'a vue, et il a dit aux disciples bien-aimés, voici ta mère. Il a dit à sa mère, voici ton fils. Elle devient mère. Lui, il l'appelle toujours femme dans l'évangile de Jean, qui est un évangile particulier. Donc, je voudrais vous montrer que ça ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe dans l'évangile. C'est en rapport avec tous les textes des prophètes qui parlent de Sion comme d'une mère qui pleure ses fils. Elle les a perdus. Jérusalem a été détruite au VIe siècle avant Jésus. Elle est restée longtemps en deuil, et ce deuil est inconsolable. Nous étudions depuis quelques mois Jérémie, et vous savez que Jérémie est le seul prophète qui parle de nouvelle alliance dans son chapitre 31. Et dans ce même chapitre qui parle de nouvelle alliance, nous utiliserons cette expression pour célébrer la Sainte Cène, nouvelle alliance, dit Jésus, en mon sang. Dans ce même chapitre 31 de Jérémie, au verset 13, nous avons Rachel qui pleure. Je vous lis le verset 13. Alors les jeunes filles dansent. Et elles s'épanouissent, ainsi que les jeunes gens et les vieillards. Je change leur deuil en joie, je les réconforte, je fais s'épanouir les affligés. Je saute le verset 14, voici maintenant le verset 15. Ainsi parle le Seigneur. Dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs amers. Rachel pleure sur ses enfants. Elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. Ainsi parle le Seigneur. Assez, plus de voix plaintives, plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. Ils reviennent des pays ennemis. Ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur. Tes enfants reviennent dans leur patrie. Dieu seul peut transformer un deuil d'enfant en joie. Et c'est ce que dit Ésaïe et Jérémie de la part du Seigneur. Je transforme leur deuil. Je change leur deuil en joie. Nous l'avons chanté. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Changerai leur deuil en allégresse. Voilà, ça c'est Jérémie 31 que nous avons chanté. C'est dit aussi dans le psaume que Francis nous a lu, le psaume 30. Tu as changé, Seigneur, mon deuil en danse de joie. Dieu seul montre à Sion, montre au moment de la croix, qui est l'élévation de Jésus, qui est la vie donnée de Jésus, la vie qui se répand dans ce monde, que le deuil de sa propre mère est transformé en joie, puisqu'elle l'enfante. Elle enfante à ce moment-là. Sion est notre mère. L'apôtre Paul nous dit ça dans Galates, lui qui a reçu la révélation de Dieu directement de son fils. À la fin de Galates, il nous dit que nous avons une mère. Ça aussi, les protestants ne remarquent pas souvent ça. Nous avons une mère, je vais vous lire ça, je vais vérifier parce que parfois, ma mémoire maintenant... Alors, dans Galates, je vous lis au chapitre 4, le verset 26. La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. Car il est écrit, verset 27 maintenant, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car plus nombreux sont les enfants de la délaissée que les enfants de celle qui a un époux. » Pour nous, c'est un peu du charabia, mais pour ceux qui connaissent la Bible, et les Juifs la connaissent, ça c'est Ésaïe 54, ça parle de Sion qui pleure, de Jérusalem qui a perdu ses enfants, qui n'a plus donc d'époux, les Juifs étant exilés à Babylone et dans d'autres pays, en Assyrie aussi, ils n'ont plus Dieu comme mari, comme époux. Maintenant que Jésus est venu, Israël a de nouveau son époux. Jésus, il est l'époux. Il est Dieu qui épouse son peuple, qui tient fidèlement l'alliance, même si elle a été rompue par sa femme, par Israël, qui a rompu l'alliance. Mais Dieu la renouvelle. Et si nous avons rompu, nous pouvons donc nous baser sur cette action de Dieu pour Israël en Jésus. Il va renouveler l'alliance. Il va nous donner toujours des choses encore plus grandes. Et plus notre désobéissance est grande, et plus il va nous donner encore une grâce plus grande. Invoquons-le et écoutons ce que Dieu dit à Rachel, qui était inconsolable, et Dieu lui dit dans Jérémie, « Il y a pour toi un avenir plein d'espérance. » Amen.